Pronto, pronto. C'est Cédric Canal qui vous accueille en ce vendredi 19 avril pour le 79e épisode déjà de la deuxième saison de Pronto Calcio. Un épisode consacré à l'Europe. On va revenir sur les quarts de finale. Il y avait quatre clubs italiens engagés. Trois se sont qualifiés. C'était le maximum possible puisqu'il y avait un derby italien. On va y revenir bien sûr avec l'équipe de Pronto Calcio et donc avec Raphaël Gauthier. Salut Raphaël.
Salut les gars.
Comment vas-tu?
Bah, lendemain d'élimination, pas au top, mais bon, on va en parler.
Exactement, on va en parler. On ne parlera pas de ce qui se passera dans 4 jours. Ça, on en parlera dans l'épisode successif. Là, c'est Europe. Également avec nous, Nicolas Wagner. Salut Nicolas.
Ciao à tutti. Bonjour Cédric.
Comment tu vas, toi?
Ça va très bien.
Alors, bon, l'Udinese n'est pas en Europe, donc au moins, c'était un peu plus tranquille pour toi cette semaine.
Ça règle le problème.
Voilà. Et puis, notre invité qui était déjà avec nous il y a quelques semaines pour parler du derby de Rome, il est revenu pour parler de ce derby italien-européen. Il s'agit de Stéphane Audi du site amoroma.fr. Salut Stéphane.
Salut Cédric, salut à tout le monde.
Je te demande aussi comment vas-tu, mais bon, j'imagine plutôt bien après cette belle soirée à l'Olympico jeudi soir.
Écoute, oui, plutôt bien. Les soirées européennes se terminent tard, les matins sont difficiles, mais c'est toujours plus sympa de se réveiller après une qualification, donc plutôt un bon réveil ce matin.
C'est vrai que vous enchaînez plutôt les belles soirées, les belles nuits romaines en ce moment, après le derby gagné contre la Lazio. Cette qualification lors de cet Euro-derby, on va commencer tout de suite bien sûr par cette rencontre. Victoire 2-1 de la Roma, je vais commencer avec toi Stéphane, scénario du match particulier, puis c'est les deux buts de la Roma rapide, et puis ensuite un carton rouge donc, de Celik. On aurait pu penser que ça allait rouvrir le match, et finalement la Roma derrière a bien maîtrisé, succès 2-1, puisqu'il y a le but de Gabbia en fin de match qui ne change rien, puisque la Roma s'était imposée déjà 1-0 à l'aller, Mancini buteur à l'aller et buteur au retour, clairement l'homme chaud du moment, puisqu'il a aussi marqué lors du derby. Stéphane, qualification logique, non, si on regarde l'aller et le retour, et comment tu l'expliques cette qualification, parce que sur le papier, on le voit d'ailleurs en championnat, Milan est devant la Roma.
Qualification méritée sur l'ensemble des deux matchs. Après le match aller, on a beaucoup entendu que c'était la victoire était peut-être due au mauvais match que Milan avait fait. Donc, est-ce que c'était la Roma qui avait été qui avait mis le Milan en danger ou est-ce que c'est le Milan qui était passé à côté du match? Donc, le petit avantage du 1-0 retour, pour moi, il comptait pratiquement pas parce qu'on repartait sur un nouveau match. Et écoutez, la Roma a refait la même chose. Donc, ils ont fait un beau match, ils se qualifient. On a vu un Milan qui a eu très peu de solutions. Ils ont beaucoup tenté, mais ça manquait de justesse ou ça manquait un peu de lucidité. Donc, pour moi, la qualification est méritée. Après, on est à Rome, donc on a l'habitude aussi, surtout en Europe, des soirées avec des revirements de situation dans les matchs. Et donc, ce 1-0 à l'aller, honnêtement, le stade était assez anxieux au début du match. Et après, comme tu le dis, les 30 premières minutes sont parfaites, les deux buts. Mancini qui a 3 buts en 3 matchs. Je sais pas, j'ai pas regardé au niveau des stats, mais un défenseur central qui enchaîne 3 buts en 3 matchs.
3 matchs aussi importants en plus, c'est vrai que très clairement, il est en très très grande forme. Avant de revenir sur le match avec toi, Stéphane, Raphaël, c'est vrai que c'est assez surprenant, aussi bien à l'aller qu'au retour, on a senti une équipe du Milan qui était un petit peu, je sais pas si c'était de la crainte, si c'était des doutes, s'ils ont été surpris par ce qu'a proposé De Rossi, qu'elle avait mis par exemple au match aller El Shaarawy à droite, des choses comme ça. On a senti, je ne sais pas, que Milan a un petit peu raté sa double confrontation.
Exactement, Milan a raté sa double confrontation. Hier, c'était le match le plus important de la saison. Et Milan est passé à côté alors qu'ils étaient à 11 contre 10. La double confrontation, elle est ratée dans les deux matchs, vous avez raison de le dire, puisque dès le premier match, en fait, c'est quand même mal embarqué de perdre 1-0 à domicile dans un environnement qui te permet normalement de prendre un avantage. Tu ne le fais pas, ok, bon, ça arrive, il faut tout de suite changer et tu prends 2-0 au bout de 20 minutes. Donc, bon, voilà. Au bout de la 25e, on savait que même avec le carton rouge, enfin moi, j'y croyais pas. C'est dommage, on en reparlera peut-être un peu plus en détail, mais je pense que ça peut s'expliquer par pas mal de choses, soit un manque d'application, soit une équipe qui a pris de haut la Roma, peut-être que c'est possible. Je sais pas, en tout cas, la responsabilité est multiple. La responsabilité est multiple, donc je ne saurais pas trop comment l'expliquer comme ça en très peu de temps.
En tout cas, on y reviendra dans les prochaines semaines, puisque ça pourrait aussi sceller le sort de Stefano Pioli. En tout cas, ça le fragilise grandement. puisqu'on savait qu'il avait besoin eh bien, de cette qualification pour certainement continuer son aventure à Milan. En tout cas, on y reviendra. Stéphane, au contraire, la Roma, De Rossi qui continue de surprendre. On le voit, j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, il fait même des choix tactiques. Et c'est Pellegrini qui a dit il y a quelques jours, peut-être même hier soir, je ne sais plus, je l'ai lu en tout cas moi hier soir, qu'il a été surpris de voir à quel point Daniele De Rossi était préparé comme entraîneur. À quel point il était vraiment au point. Donc voilà, c'est pour toi, c'est clairement la qualification de De Rossi. Parce qu'il faut préciser que c'est la quatrième qualification en 4 ans de la Roma pour les demi-finales européennes. Ça devient une petite habitude maison.
Alors, la qualification de De Rossi, oui, mais au match aller, il prépare super bien son match avec, on va pas en reparler, mais El Shaarawy à droite qui va bloquer un petit peu le couloir de la gauche de Milan qui est très fort. Au retour, j'avais un petit peu peur parce que du coup, bah, il a battu les quelques cartes qu'il pouvait avoir pour surprendre Milan. Cristante est absent, donc tu mets Bové à la place. Et donc, en fait, il remet pratiquement, bah, il remet la même équipe. Et je pense qu'il attendait de voir un petit peu ce que Pioli allait proposer en face. Sauf qu'en face, il n'y a pas de réponse à cette tactique qu'il a mis en place au premier match, puisqu'on est pratiquement sur le. Je crois qu'il y a deux changements, un changement au milieu, un changement derrière, mais on repart un petit peu sur la même chose. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est sur ce match-là, tactiquement, c'est plus la défaite de Milan, parce que Pioli a. Bon, je ne sais pas s'il a les armes pour proposer autre chose, mais il n'a pas su proposer autre chose que ce qu'il a proposé à l'aller. Je veux juste rajouter qu'hier, on a appris aussi que De Rossi serait prolongé la saison prochaine. Beaucoup de médias parlaient que ça serait peut-être après le match de Milan s'il y avait une qualif ou autre. Je trouve que les Fredkin ont bien géré la chose. C'est annoncé avant, comme ça il y a moins de pression sur les supporters et sur l'entraîneur pour ce match-là. Et voilà, donc oui, on n'attendait pas De Rossi à ce niveau-là. Beaucoup étaient sceptiques de remplacer Mourinho par De Rossi alors qu'il avait une mauvaise expérience à la Spal et qu'il n'avait pas de il avait pas d'ancienneté dans ce métier-là. Mais moi, je trouve qu'il est au niveau de l'équipe, c'est-à-dire que même cette équipe-là, quand Mourinho est parti, on pensait qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas au niveau, qu'on avait une équipe assez faible, etc. Et on voit qu'en fait, le collectif, ben, il monte ensemble, l'entraîneur, les joueurs, et on voit des joueurs qui se révèlent sous De Rossi. Donc, non, non, match parfait de De Rossi sur l'aller-retour. Et après, moi, j'ai plus l'impression que c'est Pioli. Après, je connais pas bien le Milan et.
Justement, Stéphane, Raphaël, on va terminer sur ce derby là-dessus. Ça va un petit peu rappeler le derby de Ligue des Champions, pas contre le Napoli, ce qui s'était bien passé, Pioli avait été bon, mais le derby contre l'Inter, on peut parler du niveau des équipes, mais où là-dessus, Pioli aussi, ça fait plusieurs derbies d'ailleurs qu'il est en difficulté techniquement notamment. On a l'impression que c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il a voulu proposer le jeu habituel du Milan, qui ne s'est pas forcément adapté. Et pas forcément prêt à des choses comme De Rossi a fait, le genre El Shaarawy à droite ou des choses comme ça, non?
Oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, Stéphane en a bien parlé. De Rossi, il a préparé ses matchs. Il a regardé beaucoup de matchs du Milan. Il a un petit peu analysé comment contrer Milan. Ce que ne fait jamais Pioli. Alors, Pioli, il a d'autres qualités. Et j'aime bien Pioli, mais il n'a pas cette qualité-là qui est la préparation d'un match contre une certaine équipe. Dans les derbies, j'ai pas l'impression qu'il ait de plan de jeu. Dans cette double confrontation, j'avais pas l'impression qu'il avait un plan de jeu. J'ai eu l'impression dans ces deux matchs qu'il a voulu jouer son jeu, qu'il a voulu jouer avec ses individualités, qu'il a voulu jouer avec ses bons joueurs qu'ils sont, mais qu'il n'y avait pas de plan de jeu spécifique. Je veux dire, hier, tu perds 1-0 au match aller, tu pars avec la même équipe, enfin, la même équipe, la même tactique qu'à l'aller, et tu prends quand même 2 buts en 20 minutes. Ok, bon, bah voilà, tu es obligé de tout changer à la mi-temps. Il fait 2 changements à la mi-temps qui sont pas du tout poste pour poste. Il sort Loftus-Cheek, qui rentre Chukwueze, il sort Calabria, il fait rentrer Reinders. Et il balbutie un petit peu tout ça. Et c'est un peu compliqué d'entrevoir bah, une qualification possible quand en face, tu as un entraîneur qui prépare extrêmement bien son match. Donc voilà, après, on parlera quand même rapidement pour terminer de la défense du Milan, qui est complètement friable ces derniers temps. Il l'est beaucoup plus qu'habituellement. Et tu peux pas aller gagner un match ni une double confrontation. Quand tu prends des buts aussi facilement, sur chaque occasion quasiment, t'as pas de sérénité. T'as des défenseurs centraux qui sont un peu aux abois. T'as Théo Hernandez qui est moins bon que d'habitude. Bon, t'as Calabria et Florenzi qui sont aussi bons que d'habitude, c'est-à-dire mauvais. C'est compliqué. C'est compliqué quand tu as autant, entre guillemets, de points négatifs, alors qu'en face, c'est une équipe qui est en forme, avec un entraîneur en forme. Et c'était tout simplement, moi, je veux aussi parler de la Roma, parce que c'était une belle Roma. qui au match aller comme au match retour mérite sa qualif selon moi. Alors oui, ça aurait pu tourner pour Milan. Loftus-Cheek qui touche la barre hier, il y a une grosse occasion juste derrière. À l'aller, ça touche la barre aussi, mais bon, c'est comme ça. Ça n'a pas bien tourné, mais en même temps, pour moi, la Roma mérite en termes de gestion. Défensivement, ils ont été excellents. Et le coaching de De Rossi doit, enfin, mérite cette qualification. Et donc, voilà, pour moi, c'est une qualif méritée de la Roma.
Alors Stéphane, pour terminer, du coup, demi-finale, je le disais, quatrième demi-finale européenne de suite pour la Roma, troisième en Europa League, il y avait une Conference League aussi, qui avait d'ailleurs été remportée en 2022. Et ce sera donc eh bien, le Bayer Leverkusen qui, après l'élimination de Liverpool par l'Atalanta, on va y revenir dans 2 minutes, est devenu un petit peu l'ogre puisque c'est une équipe invaincue. Encore ce jeudi soir, elle a réussi à ne pas perdre. Elle aurait pu même perdre 1-0, elle aurait quand même été qualifiée, mais elle a eu cette ressource pour aller au moins chercher le match nul. Donc rester invaincu sur l'année, bon, ça va être compliqué. C'est les 2 et 9 mai, c'est la double confrontation. Comment tu la vois, Stéphane?
Écoute, moi je pense qu'on est sur du bonus maintenant. C'est-à-dire que le but c'était de passer l'écart. Vous allez en parler, mais on a la cinquième place européenne. Pour moi, on est cinquième. On a le match contre Bologne lundi. On a des grosses affiches pour terminer la saison. Donc pour moi, c'est du bonus. Après ce qui va piquer un petit peu les joueurs. Je sais pas si vous avez vu, c'est la réaction du stade de Leverkusen quand ils apprennent que c'est la Roma qui est passée et pas Milan. Ils sont plutôt réjouis. Donc il faut pas non plus qu'ils prennent déjà acquis cette qualif pour la finale. Voilà, donc moi j'ai l'impression que De Rossi et les joueurs vont jouer cette demi-finale sans pression et on pourrait pourquoi pas avoir une petite surprise et que ce soit pas aussi déséquilibré que ce qu'on puisse le penser au vu de la saison de Leverkusen.
C'est tout le mal que l'on souhaite bien sûr à la Roma. C'est-à-dire que le Bayer Leverkusen étant déjà champion, ils auront la possibilité de faire tourner, donc sûrement de préparer au mieux cette double confrontation. Stéphane Audi d'Amoroma.fr, merci beaucoup Stéphane.
Merci à vous les gars.
Et on se quitte, on te salue avec le but de Paulo Dybala en version italienne sur Sky. Il est beau ce but.
Magnifique.
Pellegrini in verticale per Lukaku, è partito Lukaku però a farsi largo di forza, batte il suo avversario senza commettere fallo, Lukaku dal fondo, sterza Lukaku, pallone per Sharawi, non arriva ma non è finita, arriva Dybala, parte il tiro, rete, rete, Dybala, gol bellissimo!
Et donc, après Roma-Milan, donc la qualification de la Roma, qui affrontera donc, on le disait, le Bayer Leverkusen en demi-finale, l'autre demi-finale aura aussi un club italien, et ce n'était pas forcément attendu. Alors, c'était un peu plus attendu après le match aller, forcément. Mais avant le match aller, ce n'était pas forcément le cas. L'Atalanta a éliminé Liverpool. L'Atalanta qui affrontera du coup l'Olympique de Marseille les 2 et 9 mai en demi-finale. L'Atalanta qui s'est inclinée 1-0 contre Liverpool au match retour. But de Mossala sur penalty dès la 7e minute. Mais bon, il y avait eu 3-0 à l'aller avec le doublé de Scamacca et le but de Pašalić. Et pour parler de cette rencontre et pour continuer le programme, puisque l'on a perdu, entre guillemets, Stéphane Audy, on retrouve Antoine Aiello. Salut Anto.
Salut, salut.
Tu vas bien?
Ah bah, avant, j'étais triste les jeudis matins parce qu'on se sortir de la Ligue des Champions et maintenant, je suis triste le vendredi matin parce qu'on se sortir de la Ligue Europa. Ça devient compliqué.
C'est
En
ça, mais tu
espérant un matin plus glorieux, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, en te souhaitant un bon prochain mardi matin, c'est ça?
Voilà. Je sais que toi, tu ne seras pas très content du coup, mais moi, j'en ai besoin là, pour me requinquer.
J'imagine. J'imagine, j'imagine. Tu n'as pas déversé tout ce que tu penses de Pioli. On va le garder pour un épisode spécial Milan que tu feras avec Raphaël dans quelques temps. Nicolas, donc, je le disais, l'Atalanta qui a vraiment maîtrisé. En fait, ils ont été très, très peu mis en danger. Ils ont même eu deux occasions en seconde période. Ça aurait même pu faire un but partout ce match. Moi, j'ai vraiment apprécié ce qu'a proposé Gasperini parce que c'était très défensif, oui, mais c'était du 1 contre 1 défensif malgré tout. Les trois derrière face aux trois de devant, il y avait un bon pressing. Voilà, moi je trouve que ça a été une masterclass de la part de Gasperini, encore peut-être plus qu'à l'aller. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi?
Oui, c'est un match où l'Atalanta, malgré le scénario, avec ce but précoce encaissé qui aurait pu laisser présager peut-être un scénario un peu avec une mode remontada comme on a l'habitude en ce moment en Europe, finalement l'Atalanta a géré son avance, a maîtrisé Liverpool, hormis une deuxième occasion de Salah avec son petit lob qui rate complètement contre Musso. Il n'y a pas eu vraiment trop d'occasions pour les Reds. Et l'Atalanta a bien géré cette double confrontation après avoir fait cette masterclass à l'aller en s'imposant 3-0 à Anfield.
Alors, j'ai une petite question pour vous. C'est la deuxième demi-finale européenne de l'Atalanta. Est-ce que vous vous souvenez de la première?
Alors honnêtement, non.
Demi-finale, tu m'as dit européenne?
Ouais, demi-finale européenne, c'est la deuxième de leur histoire.
C'est pas dans les années 80 contre un club belge.
Oh là là, t'es fort. Alors, c'est la plus belle année des années 80, je t'aide.
Malines, non?
Exactement.
88 alors.
Exactement. 88 contre le FC Malines, et le gardien, c'était Michel Prodhomme.
Michel Prodhomme, et cette
Ouais.
année-là, Malines gagne, je crois.
Et Gasperini, après le match, et je vais te demander, Antoine, ce que tu en penses, il a dit que lui, il ne remporte pas de titre, parce que c'est vrai que voilà, il a un palmarès vierge, mais en fait, il collectionne les médailles en quelque sorte, et que pour lui, cette qualification, c'est une médaille. Tu es d'accord avec lui?
D'accord avec lui, d'ailleurs je pense qu'on sera assez d'accord, et en Italie c'est un peu le cas. C'est pas une personne qui est très appréciée par dans son tempérament en tant qu'homme, parce que c'est une personne, je trouve, qui, on peut rentrer dans certains sujets un peu nauséabonds, mais qui est très particulière sur certaines opinions politiques ou etc. Par contre, en tant que coach pour l'Atalanta, enfin, je pense que c'est le plus grand coach qui a entraîné l'Atalanta, on peut le dire. Et il fait un taf depuis qu'il est arrivé qui est assez exceptionnel. On peut se souvenir aussi des épopées européennes qu'ils ont fait en Ligue des Champions à un certain moment. Il y a déjà eu des matchs contre Liverpool aussi, l'anthologie. Là, il gagne 3-0 en Anfield. En Italie, il se qualifie souvent en C1. Il a souvent des joueurs qui partent, qui reviennent. Il en achète des nouveaux. Il arrive toujours à proposer des choses. Et j'ai presque envie de dire que c'est même un petit peu le précurseur du calcio liquido, comme on dit, qu'on aime bien appeler. Donc, il faut. Si on parle du mérite sportif, et je pense qu'on sera tous d'accord, c'est mérité, et il faut qu'il la remporte. Ou faut qu'ils arrivent au moins en finale, quoi. Parce que franchement, c'est un travail de fond qui est assez incroyable. C'est une gestion financière qui est intelligente. C'est la progression de certains joueurs. C'est un modèle très particulier qui est assez paradoxal dans notre paysage italien. Donc il faut le souligner.
Oui, puisque au-delà du travail de Gasperini, c'est tout le travail de l'Atalanta depuis 2016 qui est à mettre en avant.
Il y a eu
Sartori qui
Sartori.
est parti, mais oui, clairement.
Alors, Nicolas, un petit mot, puisque ce sera l'Olympique de Marseille. Alors, toi, tu suis bien aussi l'Olympique de Marseille. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément bien l'Atalanta, qu'est-ce que tu attends de cette double confrontation? Moi, je dirais que Marseille peut être un petit peu favori si on regarde les moyens, puisque l'Atalanta, Antoine le disait, c'est un club mineur, hein, qui a une masse salariale relativement faible, qu'il n'y a pas de grands moyens. Si les supporters de Marseille feront le choix de venir à Bergame, vous verrez qu'il n'y a que trois tribunes actuellement au stade, puisque c'est un stade de propriété qui est rénové tribune par tribune, et ils finissent le dernier virage, la dernière courbe, pour avoir un stade complet à partir de la saison prochaine qui sera de 23 ou 24 000 places. Qu'est-ce que tu attends de ce match?
Ben, ça va être un match, je pense, assez serré, puisque l'Olympique de Marseille, qui est actuellement diminué, va récupérer pas mal de joueurs qui étaient sur le flanc. Et donc, du coup, ça sera pas forcément le même effectif qui a affronté hier Benfica. Pour autant, l'Olympique de Marseille, c'est un peu le courant alternatif. Ils sont capables de belles choses comme hier soir, mais les récentes performances en championnat peuvent inquiéter aussi. Donc ça va dépendre quelle équipe va retrouver Bergame, mais je pense plutôt, moi, que vu les prestations récentes, que c'est Bergame qui est plus favori. De quand on va mettre un 3-0 à Anfield, je pense que même si l'atmosphère au Vélodrome est toujours particulière, Bergame est pour moi favori sur cette double confrontation.
On verra en tout cas Marseille qui a retrouvé Toukou Korea qui a marqué son tir au but. Donc voilà, ce sera peut-être l'homme clé qui sait. Il pensera à
Ça
plus bon souvenir du
sera
football
son seul
italien.
fait notable de la saison, je pense.
On verra, peut-être que l'air de l'Italie lui fera du bien. En tout cas, ce sera Atalanta-Marseille. On va passer deux mots rapidement sur la Conference League. La Fiorentina qui s'est donc qualifiée difficilement, 0-0 au match aller contre Pilsen, 0-0 au match retour. Prolongation, Nico Gonzalez qui a débloqué la rencontre donc au tout début de la prolongation, Biraghi le deuxième but, succès 2-0, beaucoup beaucoup d'occasions. Nicolas, c'est une Fiorentina qu'on a l'habitude de voir depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que ça joue plutôt bien, mais ça marque pas. Enfin bon, ça a marqué, mais ça a marqué
Et
après 182 minutes quand même. Donc bon.
ça marque pas parce que en face on avait quand même une équipe de Pelsen qui était invaincue en Europe. C'est quand même à souligner, et surtout parce que les attaquants de la Viola sont très maladroits. Poteau pour Belotti, transversal pour Kwame, Si on regarde les stats, il y a eu 40 tirs, mais seulement 9 qui ont atteint le cadre du gardien tchèque. C'est trop peu et on voit que ça a été une souffrance, mais qu'à la fin, il y a la qualif. Mais pour autant, c'est pareil, on peut faire le lien avec le classement des buteurs cette année en Serie A. Le meilleur buteur cette année, enfin, co-meilleur buteur, c'est Bonaventura avec 7 buts et Nico Gonzalez. Donc on voit qu'ils sont loin du haut du classement des buteurs de Serie A. Et certes, ça joue bien, Italiano fait bien jouer ses équipes, mais il y a un gros problème de réalisme dans cette équipe. Et ça, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de qualité offensive.
Bien, on verra en tout cas la demi-finale. Tout à l'heure, on parlait de l'Atalanta qui avait joué contre le FC Malines en 88. La demi-finale sera contre un club belge en Conference League pour la Fiorentina, puisque ce sera le club Bruges. Et puis ensuite, en finale, ce sera ou Aston Villa ou Olympiakos, si la Fiorentina se qualifie, bien sûr, puisque ce n'est pas encore le cas. La Fiorentina qui était finaliste la saison passée de la Conference League. Donc, bien, on verra s'ils vont rééditer cette performance.
Il cross sul palo lontano, la palla rimane lì. Nico Gonzalez! Al 92esimo! Eccolo il gol che spezza l'equilibrio e porta avanti la Fiorentina. Ci ha pensato il numero 10, Nico Gonzalez!
Je sais que c'est ta petite marotte de la saison. J'ai dit marotte. Il n'y a pas de A à la fin, attention Antoine. Le ranking UEFA sur la saison, puisque vous le savez, la nouvelle formule de la Ligue des Champions offre 2 billets en plus pour les deux nations qui effectuent le meilleur parcours européen sur la saison. Et l'Italie, depuis ce jeudi soir, est officiellement assurée de terminer parmi les deux premières. Il y a même de bonnes chances que l'Italie termine à la première place, à moins qu'on ait un raz-de-marée allemand sur cette fin de compétition. Mais voilà, c'est donc sûr, désormais, grâce aux qualifications de la Fiorentina, de l'Atalanta et de la Roma, celle-ci était attendue puisque c'était contre un club italien. 5 places, donc. Ça pourrait même être plus, ça pourrait être une sixième si jamais la Roma ou l'Atalanta gagnent l'Europa League sans terminer dans le top 4. Donc c'est une possibilité, on verra. En tout cas, ces 5 places, au-delà du côté plaisir, ça montre aussi la bonne santé, selon toi, du football italien, toi?
Ça montre la bonne santé. Ça montre aussi, comme tout à l'heure, tu parlais de la Roma qui se qualifie pour sa quatrième demi d'affilée en Coupe d'Europe. On a encore aussi la Fiorentina qui, en Conférence Ligue, est en demi-finale. Oui, ça montre la bonne santé, ça montre le travail sérieux. Ça montre finalement que tu as toutes ces équipes qui ont des projets assez différents, comme l'Atalanta, comme la Fio, comme la Roma, comme Milan, comme Inter, qui arrivent quand même à aller loin en Europe. On rappelle que l'Inter était l'an dernier finaliste. Donc, non, ça montre un bon travail. Même si paradoxalement cette année on n'a aucun club qui est en Ligue des Champions, qui était en quart de finale déjà, c'est tout se fait sortir. Et oui, ça montre qu'il y a un bon travail, ça montre un état de forme. Je pense que le ranking, c'est quand même un indicateur qui est rarement faux ou faussé. Après, comme tu as dit, c'était ma marotte, parce que pour moi, c'est important de faire briller certaines équipes qui, comme Bologne cette année, ne. À part en faisant ça, on aurait peut-être du mal à aller en Ligue des Champions. Je trouve que c'est important aussi. Tu as sorti une stat sur notre groupe l'autre jour qui était hyper intéressante sur le nombre de joueurs italiens qui jouaient en Ligue des Champions. On est la sixième nation, je crois, si je me rappelle bien, mais de joueurs représentés, donc c'est quand même assez faible quand on voit notre histoire et notre niveau. Donc je pense que c'est crucial et moi je suis extrêmement content que ce soit le cas. Comme tu as dit, j'en parle depuis le début de saison. Même si ça va changer l'an prochain, que maintenant il y aura un classement particulier, comme tu nous avais aussi dit, vu que tu es un peu comme Luis Enrique, tu es un peu je retrouve tout. Tu as toujours toutes les réponses à tout et tu sais toujours tout. Donc tu nous as aussi dit que ce classement allait changer, vu que maintenant ils comptabilisaient toutes les Coupes d'Europe, que ça allait être.
Ils comptabilisent déjà, non, ils comptabilisent déjà les Coupes d'Europe. Seulement la saison prochaine, la Ligue des Champions aura un poids légèrement supérieur par rapport. Encore un
Égal.
peu plus supérieur. Donc, c'est-à-dire, si tu fais des parcours un peu de merde, entre guillemets, en Ligue des Champions la saison prochaine, tu auras du mal à être dans le top 2.
Ce que particulièrement, enfin, ce que je comprends aussi, c'est un peu la reine des coupes. Mais moi, je suis hyper content. Et en plus, ça va aussi permettre peut-être de rajouter un peu de piment à cette fin de saison où quasiment les trois premières places sont déjà fixées. Et ça va donner justement un peu d'intérêt parce que finalement, même Naples, qui a l'air complètement largué, ils sont qu'à 6 points de la. Avec un match en plus, mais ils sont qu'à 6 points de la cinquième place. Et tu as quand même entre entre la cinquième place qui est en ce moment détenue par la Roma, ou la quatrième de Bologne, et le Napoli, tu as 10 points. Et tu as quand même du Bologne, Rome, Atalanta, Lazio, Napoli. Donc, on va dire que ça donne quand même un intérêt aussi à cette fin de saison et peut-être espérer justement de revoir l'Atalanta en Ligue des Champions ou de voir Bologne.
Voir les deux, du coup, puisqu'effectivement, ils pourraient faire 4 et 5, on verra. Pour montrer effectivement que ce n'est pas un épiphénomène cette saison, sur le ranking à 5 ans, qui est le ranking qui compte pour tous les classements, que ce soit pour les clubs ou pour les nations, alors pas pour ses places bonus, mais qui compte de façon générale, l'Italie devrait récupérer la deuxième place, ce qui n'est pas arrivé depuis 2006. L'Italie a toujours été depuis 2006 troisième ou quatrième du ranking UEFA sur 5 ans. Et bien là, elle devrait dépasser l'Espagne, puisque l'Espagne n'a plus qu'un club, c'est le Real Madrid, et elle n'a que 0,1 point d'avance, l'Espagne, sur l'Italie. Donc autant vous dire que, à moins que l'Italie se foire complètement, l'Italie devrait se retrouver donc deuxième, à bonne distance de l'Angleterre. Mais voilà, ça montre aussi la bonne santé du foot italien depuis plusieurs années, et un certain retour, on va dire, après par certaines années de disette où il n'y avait que la Juve, voire la Roma qui marquait des points.
Bah oui, parce que de toute façon, par le passé, on a bien vu que les deux Milanaises avaient des problèmes pour atteindre l'Europe, et donc forcément, on pouvait pas marquer des points dans le ranking. Donc c'est bien, ça prouve que la Serie A est un championnat qui compte au niveau continental et que ça travaille bien. Et il faut s'appuyer sur ces résultats pour faire grandir encore le championnat et lui redonner la dimension qu'il avait par le passé.
Ha vinto tanto, chapeau. È stato di peso, chapeau. Mi piace come giocatore? No. Lo metto tra i più grandi della storia? No. Un parere mio personale. Sbaglierò? Amen. Per me è la qualità, raffinatezza, Ventola.
Et avant de terminer, eh bien, les pronostics, on va parler Ligue des Champions, messieurs. Donc, avec. Il n'y a pas de club italien, vous le savez, depuis la fin des huitièmes de finale. Mais bon, on a quand même suivi cette semaine européenne. On voulait un petit peu en parler rapidement, en 2-3 minutes comme cela. Les demi-finales qui sont donc assez surprenantes, puisque quasiment tous les. Ceux qui étaient annoncés favoris, Manchester City, Barcelone ou l'Atlético, ont été sortis. Et donc, on aura un Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Nicolas, comment tu le vois ce match?
Ben, je pense que le Paris Saint-Germain va devoir se méfier de Dortmund plus que ce qu'on entend actuellement dans les médias, parce que Dortmund a quand même bien géré sa double confrontation contre l'Atlético, même si au match aller ça a été quand même assez compliqué pendant environ 60 minutes. Mais à partir de la 60e et le match retour, ils ont parfaitement maîtrisé cette équipe de l'Atlético, et on sait que cette année, surtout toi, Cédric, c'est une équipe qui est quand même assez compliquée à jouer. Et pour autant, ils ont réussi à obtenir leur qualification. Donc, Paris reste le favori légitime, mais je pense que ça sera peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on entend en ce moment.
Le Paris Saint-Germain qui aura le petit avantage supplémentaire d'avoir le match retour à domicile, sachant que donc Borussia PSG, Antoine, c'est les deux équipes qui étaient dans le groupe de l'AC Milan qui se retrouvent en demi-finale.
Oui, on se disait que c'était comme un groupe difficile, et la preuve en est. En plus, Milan est arrivé troisième du groupe et avait été sorti à différence de but. Et en plus, Paris qui est aussi chanceux, vu qu'ils sont quand même passés du groupe avec un épisode assez scandaleux contre Newcastle. Mais le PSG a quand même de la chance cette année, parce qu'ils ont quand même si à cause du match aller, le PSG n'était pas forcément favori contre le Barça au match retour pour la qualif. Ils ont quand même eu, je pense, un tirage qui était à peu près clément avec la Sociedad, le Barça. Dortmund, ça reste une grosse équipe, mais je trouve que c'est beaucoup plus relevé ailleurs. Donc, on va dire que, un peu comme a eu un peu l'Inter l'an dernier jusqu'en finale, ils ont un tirage où ils sont quasiment toujours favoris avant les matchs. Donc, à eux de voir s'ils peuvent profiter pour se qualifier, parce que je les vois quand même favoris.
Donc tu les vois en finale.
Oui, je les vois, malheureusement, je les vois en finale.
Raphaël, toi, comment tu vois ce match et qui tu vois passer?
Bah, sans grande surprise, je le vois aussi le PSG, qui est quand même un grand favori de la double, enfin, de cette confrontation. Après, ça va pas être si facile puisque Paris encaisse des buts, ils en ont encaissé dans chaque match contre le Barça. Et Dortmund, on a vu contre l'Atlético que ça plantait beaucoup. Donc, comme d'habitude, ça se jouera, c'est un peu impensif, mais ça se jouera sur des détails. C'est-à-dire que s'ils mettent pas les occasions qu'ils doivent mettre, Dortmund, bah, ça va pas passer. Et malheureusement, Paris, eux, enfin malheureusement, ou heureusement si on supporte Paris, le PSG va mettre des buts, ça c'est clair. Il n'y aura pas de doute. Après, ils peuvent aussi en prendre et ça va être ça la force de Dortmund. Ça va être surtout de mettre les occasions parce que Paris, c'est friable. J'en parlais tout à l'heure avec Milan, mais en ce moment, Paris, ça prend des buts. Et comme Milan, si tu prends des buts à chaque occasion adverse, bah à la fin, même si tu es favori, tu encaisses et tu te fais sortir. Mais voilà, comme un peu tout le monde, je vois Paris passer et le PSG peut-être retrouver, le PSG, pardon, Mbappé peut-être retrouver déjà le Real un peu plus tôt que prévu en
Alors,
finale.
je te laisse la main justement. Bayern Munich, Real Madrid. Le Bayern qui a donc sorti Arsenal de façon plutôt méritée. Et puis le Real au tir au but, donc qui a éliminé Manchester City. Un peu moins mérité peut-être. Ça a été une grosse partie défensive en tout cas du Real Madrid. Comment tu le vois l'autre demi-finale?
Moi, je vois le Real parce que ils sont trop forts enfin, mentalement, physiquement et techniquement. Bon, on les connaît, donc ça, il n'y a pas de doute. Mais mentalement, c'est des monstres. Les mecs qui prennent un but, ça, il n'y a aucun problème. Au match aller, ils renversent le match. Je veux dire, ça panique pas. Ça a des joueurs très très intelligents. Après le Bayern, attention, le Bayern a entre guillemets sa saison à jouer. Je pense qu'ils vont jouer, bah, leur va-tout. Mais le Real, je les vois passer. Ancelotti, trop fort. Donc, le Real, en tout cas, c'est ce que j'espère. Et j'espère voir le Real passer dans cette confrontation contre le Bayern.
Antoine, c'est aussi, on va dire, c'est ton deuxième club de cœur, le Real. En plus, il y a Carlo Ancelotti, donc j'imagine que tu supporteras le Real, mais tu les vois passer toi aussi.
Je les vois passer. J'espère qu'ils passeront. Et j'ai envie de te dire qu'heureusement qu'il y a Ancelotti parce qu'il me permet d'avoir toujours un petit morceau de Milan et d'Italie surtout en demi-finale. Et je le vois passer parce que même si le Bayern. Moi j'ai vu le match Bayern-Arsenal, les deux matchs, et je pense que les Gunners, par exemple, ils ont beaucoup payé leur manque d'expérience, parce que ça s'est joué à très peu de choses. Je pense pas que le Real se fera embobiner. Au contraire, le Real, ils ont démontré que même en souffrant, ils peuvent passer. Donc je vois bien Ancelotti passer et pourquoi pas gagner sa cinquième des champions, ce qui serait un record total pour Carlo.
Nicolas, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette double confrontation qui aura lieu entre fin avril et début mai, Bayern Munich et Real Madrid?
Oui, bah, de toute façon, je suis d'accord avec les gars. Je pense que le Real est favori. On a vu sur la double confrontation contre City leur façon de gérer, même s'ils ont beaucoup souffert au retour, ils ont été très solidaires et ont montré qu'ils étaient unis. Et je pense que ce genre de match ne peut être que bénéfique pour le Real. Par contre, je suis d'accord aussi avec Raph, c'est que le Bayern joue sa saison. C'est pas entre guillemets, c'est joue sa saison. Étant donné que le titre s'est râpé, il y a que ça, donc faudra faire attention parce que les Allemands ne sont jamais aussi forts que dans ces moments-là. Nous, en France, on l'a souvent expérimenté. Donc, je pense que le Bayern est une bête blessée cette année. Il faudra quand même se méfier. Et je pense que le Real est quand même favori, mais ça va jouer peut-être un peu plus serré que ce que les gens pensent aussi.
Eh bien voilà pour cet épisode de Pronto Calcio consacré à l'Europe. Donc, Raphaël Gauthier, Nicolas Wagner, Antoine Aiello, merci messieurs.
Merci, merci.
Merci. Ciao à tutti.
Et puis ben, on se retrouve dès mardi. Prochain épisode forcément mardi. On va attendre la fin de la 33e journée de Serie A puisqu'il y a deux matchs lundi soir et particulièrement un qui sera légèrement attendu dans le nord de l'Italie et pas seulement. Un
Un petit
dernier.
match, hein.
Ouais, un petit match amical.
Ça vaut pas le Udinese Vérone qui va bientôt arriver.
C'est vrai. Ah ben, niveau enjeu, c'est pas faux dans un sens, mais.
C'est vrai.
Et du coup, est-ce que pendant ce match-là, il va y avoir des applaudissements à la 88e minute ou pas?
Ben,
Je sais pas.
après Atalanta et Lazio Vérone, on enchaîne les derbies, quoi.
On a été quand même salué suite à l'incident de Ndicka, peu
Ouais,
cher. Tout le public et le staff de l'Udinese a été. Comment dire, cité en exemple et salué pour la gestion de cette crise. Donc autant il y avait des choses à dire après la réception de Milan, autant faut quand même redorer un peu le blason.
mais si t'as un exemple, parce qu'ils ont rien dit, Parce qu'il avait ses problèmes de cœur ou parce qu'ils ont dit parce qu'il était quand même noir. Enfin, parce que je sais pas, avec l'Udinese, après qu'il y en a coupé, Cédric. C'est un
Ah
petit
non, je
affront.
laisse. Moi, je laisse, je m'en fous si on a plein de la lycra derrière, c'est pas grave. Mais
Ah,
non, mais.
et ce sera Harlem Désir.
C'est ça. Non, mais on précise, c'est des petites blagues qu'on se fait entre nous, mais voilà, mais c'est vrai que l'Udinese a été salué. C'est vrai que voilà, ils ont quitté le stade en plus avec tranquillement. Enfin voilà, il n'y a pas eu de. Il n'y a eu aucun problème sur le fait que le match a été suspendu. Bien au contraire. Donc il y a, enfin voilà, que ce soit le club ou les supporters de l'Udinese ont eu un bon comportement.
Et il faut souligner en plus que l'Udinese, c'est un des rares clubs dans leur stade, là, le Blue Energy Stadium, où il y a une salle à 2 mètres du terrain où il y a tout l'appareillage pour faire ou une réanimation cardiaque ou pour faire des examens rapides. Quand même le dire, ils sont nuls, mais ils ont quand même un beau stade.
Et voilà, ils ont des atouts. Bon, allez, je pense que maintenant on peut se quitter. Et parce que la Roma a atteint le dernier carré européen pour la quatrième année de suite, on le disait tout à l'heure, mais on se quitte avec une chanson qui s'appelle Roma, la chanson de Gazelle et Noyz Narcos. C'est un peu une déclaration d'amour qui respire vraiment toutes les facettes de la vie quotidienne de la Città Eterna. Et aussi pour remercier encore une fois Stefano Di qui a eu la gentillesse de nous accompagner quelques minutes ce matin. Et aussi parce que Antoine, Raphaël et Nicolas. C'était Stronzi, ma vi amo. Oh, ciao.
Per quanto sei stronza, per quanto ti amo.